שבת פרשת וישב. הכשר זמי השם עליכם, תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. נות פרשה est la neuvième du Sefer Bereshit. En effet, il y a 53 parashiot, gan parashiot, que nous lisons le Shabbat, à part celle de Vezot HaBeracha, qui est lue un jour de Yom Tov. En effet, 53 parashiot, cela correspond aux 50 portes de la Bina, Nun, Shaare, Bina. Le Gimel, c'est le rattachement de ces 50 portes de la connaissance qui sont rattachées aux sphères supérieures. Cela correspond au-dessus du cerveau. Il y a 3 éléments qui sont les éléments les plus hauts. C'est les méninges et les deux membranes qui sont au-dessus, qui forment les méninges. Et cela correspond dans les sources les plus hautes des mondes supérieurs, aux éléments les plus hauts spirituellement. Nous rattachons donc les 50 portes de la connaissance à ce qu'il y a au-dessus. La paracha de Vezot HaBeracha, c'est la bracha que Moshe va bénir, par laquelle Moshe va bénir Israël, c'est le lien qu'il y a entre la Torah écrite, les 53, qui va s'ouvrir sur la Torah orale. C'est la bracha de Moshe. C'est pour cela qu'elle n'est pas lue un jour de Shabbat, elle est lue un jour de Yom Tov. Donc notre paracha, nous, est la neuvième. Elle correspond à la mida du Yesod. Le Yesod, c'est le fondement. Et le Shabbat est, lui, le malchut, la royauté d'Israël. La royauté est considérée comme étant pauvre. Elle n'a rien de par elle-même. Elle n'a que ce que les autres lui donnent. Le roi, c'est un membre du peuple qui est élevé, qui n'a rien de lui-même et qui est élevé au-dessus des autres. De même, le Shabbat n'a rien, ne fabrique rien de lui-même. Il ne contient que ce que tous les jours de la semaine lui ont donné, lui ont conféré. Donc toute la préparation de la semaine va donner au Shabbat sa qualité. Et quand le Shabbat reçoit cela, il s'élève au-dessus des autres jours. C'est pour ça que le Shabbat est le jour saint. Il est appelé Kadosh. Nous devons le sanctifier. Parce que quand toutes les énergies de la semaine se déversent dans le Shabbat, donc il les récupère et s'élève au-dessus. Il donne une valeur ainsi à toute la semaine. Le truchement, le canal par lequel toutes les énergies se déversent, c'est le vendredi. Le vendredi correspond au jour de Yosef, au Yesod, à la Mida de Yesod. C'est le Yesod, c'est Yosef qui va permettre à Yehuda de se réaliser à travers la royauté d'Israël. Alors nous voyons dans la paracha que Yosef est quelqu'un qui est discret, qui est caché, qui ne montre pas sa grandeur. Sa grandeur est méconnue. Il travaille à l'intérieur. Comme dit le Chazal, nos maîtres disent que Esav, sa méchanceté est cachée. En apparence, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Comme le cochon qui montre ses pattes qui sont, il a les sabots fendus. Mais à l'intérieur, il ne montre pas qu'il n'est pas ruminant. C'est l'apparence. Pour lutter contre cela, nous avons besoin de Yosef. Qui lui, son mérite et sa grandeur ne sont pas apparents. Il est caché. Donc même ses frères, même les frères, n'ont pas compris la grandeur de Yosef. Cette grandeur-là, ce mérite-là, cette tzidkout n'apparaîtra qu'à la fin du parcours. Mais au départ, on le soupçonne de toutes sortes de mauvaises qualités. Donc Yosef, à cause de cela, va être vendu par ses frères. Et dès que la Torah raconte la vente et la descente de Yosef en Égypte, de suite il est dit que Yehuda a été descendu de sa grandeur. Les frères lui disent: si tu avais demandé qu'on le ramène à notre père, nous l'aurions fait. Mais c'est toi qui as proposé de le vendre. Donc c'est à cause de toi que tout cela est arrivé. Donc tu ne mérites plus d'être à la direction. Tu ne mérites plus d'être celui qui dirige. Donc Yehuda est destitué, entre guillemets, de sa grandeur. Et que se passe-t-il? Donc il va contracter une alliance avec Hira. Et de suite, il va se marier avec une femme, la fille de Shua, qui lui a donné 3 enfants, Aher, Onan et Shela. Yehuda va prendre une femme, Tamar, on nous dit que c'est la fille de Shem, Ben Noir, et il va la marier à Aher, qui va décéder. Donc il fait Yiboum, Tamar va faire Yiboum avec Onan, qui va lui aussi décéder. Voyant que les deux fils sont décédés, peut-être que c'est la cause de Tamar, parce qu'elle est très, elle est peut-être trop de sa déquête pour les enfants, donc il préfère la renvoyer chez elle. En lui disant que tant que le troisième fils grandisse, attends que le troisième fils grandisse. Tamar, ayant vu que le troisième fils avait grandi et que Yehuda continue à l'ignorer, décida de se déguiser en prostituée et de se mettre à la croisée de chemin. Là où Yehuda va passer pour aller à tondre ses troupeaux. Et c'est là que va se passer l'épisode qui paraît être inadapté à la grandeur de Yehuda et à sa tzidkout. Il va avoir une tentation, un désir profond de se lier avec cette femme qu'il prend pour une prostituée. Il ne la reconnaît pas, car elle avait caché son visage, donc il ne sait pas qui elle est. Et il désire avoir ce rapport avec cette femme qui est a priori une prostituée. Elle lui dit, que me donnes-tu pour que, comme salaire? Elle lui dit, je t'enverrai une bête du troupeau. Elle lui dit, mais quelle garantie j'ai? Donc elle lui prend comme garantie son hotam, son seau, son bâton et son pétil. Pétil, c'est le vêtement. Donc 3 éléments qui qualifient la royauté d'Israël. Le Zohar dit, le Midrash dit que ces 3 éléments sont la qualité, le bâton, c'est le bâton de gouvernant, le sceau, c'est le sceau du roi, et le pétil, c'est le vêtement de la royauté. Comme il est dit, Adonai malar geout lavesh. Le vêtement de Dieu, Dieu s'habille en tant que roi de ce vêtement-là de gloire. Et c'est le même vêtement que portaient les rois d'Israël. Donc il donne ces 3 éléments-là. Et elle tombe enceinte. Quand il envoie pour récupérer ces 3 choses, elle avait disparu. Donc, on cherche la prostituée et on nous dit qu'il n'y a jamais eu ici de prostituée. Plus tard, au bout de 3 mois, on nous dit, on informe Yehuda, voilà, Tamar est enceinte. Elle est passible de mort, dit Yehuda. Et de suite, quand on décrète qu'elle est passible de mort, elle envoie à Yehuda et en lui disant, voilà, sache, reconnais, l'homme à qui ceci appartient, c'est de lui que je suis enceinte. Et c'est alors que Yehuda dit, Tzadka Mimini, il reconnaît en public que c'est de lui qu'il s'agit. Et de suite, nous disent les maîtres, que Yehuda a sanctifié le nom de Dieu en public. Alken nikra al-shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Dans le nom de Yehuda, il y a les 4 lettres du nom divin, Yudke Vavke, plus le Dalet. Et le fait d'avoir reconnu en public que Tamar avait raison, va faire qu'il va hériter de la royauté d'Israël. Yehuda, c'est la reconnaissance. Savoir reconnaître ses faiblesses, savoir reconnaître la grandeur de Dieu, savoir reconnaître la vérité. Donc nous voyons que l'épisode de la vente de Yosef va permettre à Yehuda de se réaliser. La royauté d'Israël est en cours de formation, en gestation. C'est la conception même de la réalité de la royauté d'Israël qui se passe. Et en parallèle, que se passe-t-il de l'autre côté? Il se passe de l'autre côté que Yosef est mis à l'épreuve à son tour, lui aussi. C'est le Tikkun HaYesod. Il a la tentation, mais lui ne cède pas à la tentation. La femme de Potiphar qui le harcèle jour après jour, qui essaye de le séduire jour après jour, il ne cède pas, il abandonne son manteau et se sauve, et sanctifie ainsi le nom de Dieu dans la discrétion totale. Lui a sanctifié le nom de Dieu dans la discrétion, on lui rajoutera le « hé » du nom de Dieu. « Yéosef » il va s'appeler. Aussi foulo hot han mieshemo shel HaKadosh Baruch Hu. Encore une fois, nous voyons que Yehuda, c'est sanctification du nom de Dieu. La puissance de Yehuda est au vu au su, de manière, elle est connue, elle se fait en public. La grandeur de Yosef et la sainteté de Yosef est cachée. Donc ce fait d'être caché permet à Yehuda de se réaliser en public. Nous allons remarquer aussi que ces deux choses-là, ces deux facettes, correspondent à David HaMelech. David HaMelech dit « Muzar ha'itil e'ahai nochi libneimi ». En effet, Ishaï pensait que David n'était pas son fils. Il pensait que sa femme l'avait trompé. Il ne savait pas qu'il avait eu un rapport avec elle et que c'était son propre fils. Ses frères le considéraient comme étant un mamzer. Il était un étranger aux yeux des enfants de sa mère. Quand est-ce que cela va être établi lorsque le prophète Shmuel vient pour un des enfants et qu'en fin de compte, Ishaï fait défiler tous ses enfants sauf David? Et le prophète lui dit, c'est pas cela, t'as pas l'autre enfant, c'est là tous tes enfants? Il lui dit, non, j'ai le petit dans la montagne, il garde les troupeaux. Il est étonnant qu'on fasse garder les troupeaux dans un lieu dangereux par le plus petit. Et quand David arrive, et Shmuel lui dit, c'est celui-là, c'est lui le roi. C'est alors que Ishaï prend conscience que c'est son vrai fils. Plus tard, il va être dit, de David, on va contester la royauté de David. Quand est-ce que la royauté de David ne sera plus jamais contestée? C'est quand Shlomo HaMelech va vouloir faire pénétrer l'Arche Sainte dans le temple et que le porte du temple se ferme. Il va faire des prières, mais les portes ne s'ouvriront que lorsqu'il invoquera le mérite de David. Bahavour David, Avi, Avdecha. Et c'est alors que les portes s'ouvriront. Alors, tout le monde prendra conscience du mérite éclatant de David. Donc, David, il a deux facettes. Il a une part, il ressemble à Yosef. Et d'autre part, il ressemble à Yehuda, qui sanctifie le nom de Dieu en public. De même, Yosef, quand les frères, à la fin du parcours, vont se prosterner devant lui, ils vont voir sa grandeur, qu'il est arrivé à être le maître de l'Égypte, ils vont comprendre que, en vérité, ce n'était pas un rachat, c'était un grand sadique. Mais au départ, non. C'est comme ça que les chemins d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Les choses les plus hautes, les plus saintes, prennent l'apparence, viennent en ce monde sous la forme de moyens détournés qui ne sont pas corrects. Ça a l'air, la discussion... Le conflit entre les frères a l'air d'être un conflit, une haine gratuite, quelque chose de vil. L'histoire de Yehuda avec Tamar, c'est encore quelque chose de vil. Mais on va reproduire cela avec Ruth et Boaz, etc. Tout ça, ce sont les moyens détournés que Kadosh Baruch Hu utilise pour que les choses se réalisent, qu'il n'y ait pas d'accusation, qu'il n'y ait pas d'empêchement. Parce que le Satan va considérer que tout ça, c'est bien pour lui. Et il ne sait pas qu'au fond, toutes ces choses-là sont liées aux sources les plus hautes de la sainteté. Et que quand David HaMelech prend le pouvoir et que la Malchut Bet David se réalise, c'est le Malchut Shamaim qui se réalise, c'est la royauté de Dieu qui se réalise. Donc nous voyons comment dans cette paracha-là que nous lisons la Torah écrite le jour du Shabbat, qui est la liaison qu'il y a entre le Yesod, le truchement par lequel la Torah orale va se déverser dans la Torah écrite. De la Torah écrite va jaillir la Torah orale. C'est le sens de la lecture
hebdomadaire de la Torah, le Shabbat qui symbolise la Torah orale. Et la lecture de la Torah qui est la Torah écrite. C'est la liaison qu'il y a entre Yosef et David. Entre Machiar ben Yosef et Machiar ben David. C'est le Machiar ben Yosef qui doit introduire la venue du Machiar ben David. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que la paracha, la neuvième paracha de la Torah, qui est la Mida de Yosef, permet la graine de la royauté d'Israël de se planter, de commencer à germer. Yeratson, que cette royauté éclate, nous soit rendue, que le Mashiach apparaisse, que la lumière de la Torah jaillisse dans ce monde et éclaire l'humanité, afin que Béhémeth, les ténèbres s'estompent et que la délivrance arrive. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.